La vraie joie. Nous allons regarder ce matin où trouver la joie du Seigneur, la vraie joie. Autre diapositive. Un bateau traversait l'Atlantique et comme vous voyez, il faisait pas beau. C'était la tempête. Et ça faisait 2 jours que les gens mangeaient pas, étaient malades. Et une personne a dit, un passager dit, je vais aller voir le pilote pour savoir si on va se rendre. Il traversait l'Atlantique, savoir si on allait se rendre en Amérique. Et le passager a marché, il a réussi à se rendre jusqu'au pilote, puis il est revenu. Puis là, il dit aux gens, inquiétez-vous pas, tout va bien. Comment ça? Il dit, le pilote est de bonne humeur, puis il rit, puis il chante. Si le pilote est un bonne mine, puis il est content, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. On va arriver à bon port. Donc, c'est comme nous, des fois, ça va pas bien dans notre vie, on regarde Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a toujours le sourire. Lui, il nous dit, il n'y en a pas de problème. OK? Autre diapositive. Donc, ça, c'était le sourire du pilote. Donc, on va regarder ce matin, qu'est-ce qui produit la vraie joie? On veut tous être heureux. Il y en a-tu ici ce matin qui veulent être malheureux? Absolument, des masochistes, là. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, tout le monde veut être heureux et Dieu a mis dans notre cœur ce désir-là d'être heureux. Il y a aussi le désir d'avoir du plaisir ou le désir d'être heureux. Des fois, on peut mélanger ça. Il y a une différence entre le plaisir et la joie. Un verset, diapositive suivante, s'il vous plaît. Dans Luc 14, on parle d'un plaisir qui n'était pas bon. C'est dans la parabole des semences. On lit, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie, ils ne donnent pas de fruits mûrs. » Donc, il y a certains plaisirs qui ne sont pas bons. Ici, il fait référence à des plaisirs qui déplaisent à Dieu, qui ne respectent pas sa loi morale. OK? Et ça affecte, ça a prouvé que la personne n'était pas chrétienne. Mais le plaisir n'est pas mauvais en soi. OK? Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et Dieu nous a donné des sens. Le goûter, on peut voir, on peut entendre. Et le plaisir est souvent relié à qu'est-ce qu'on va ressentir avec nos sens. Un autre verset, dans 1 Timothée, si on veut tourner la diapositive, 1 Timothée chapitre 4, où on voit qu'on peut goûter les choses de Dieu avec action de grâce, et c'est bien. Donc, Dieu nous les a données pour qu'on puisse le remercier. Donc ici, il parle de faux prophètes qui disaient des choses qui n'étaient pas vraies. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc, Dieu nous a donné plein de choses. Il veut qu'on les prenne. Ça peut être la nourriture qui est bonne. Ça peut être dans le mariage, le plaisir sexuel, c'est voulu de Dieu et tout ça. Donc, il y a des bonnes choses, mais Dieu veut qu'on les prenne avec action de grâce. Donc, il y a un certain plaisir. Il y a une différence entre plaisir et joie. Comme je dis, le plaisir fait plutôt référence au sens. La joie, c'est plutôt référence à l'intérieur, comme supposément quelqu'un se convertit. J'ai de la joie dans mon cœur. C'est pas du plaisir. Hein? C'est plaisir, c'est différent. Non, c'est un peu ça la différence. Donc, Dieu nous a créés pour être heureux. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, c'était pour qu'ils soient heureux. Dieu voulait partager sa vie et son bonheur avec nous. Donc, c'est pour ça qu'on cherche toujours le bonheur. On a une soif en dedans de nous d'être heureux. Malheureusement, on cherche souvent au mauvais endroit. On se souvient du monologue de Yvon Deschamps sur le bonheur. Le bonheur a passé, j'étais pas là, je l'ai manqué. Donc, on voit quel intérêt le bonheur a dans la vie des gens. Et ceux qui font la publicité utilisent beaucoup ça, ce désir d'être heureux, pour nous vendre des produits. Mais il faut le chercher au bon endroit, là où Dieu l'a placé, la vraie joie, le vrai bonheur. Des choses qui vont donner la joie, j'ai parlé tout à l'heure d'une personne qui se convertit, un enfant qui suit le Seigneur, une personne qui se reconsacre, ça nous donne beaucoup de joie. Et, principalement, moi, si on veut dire une chose résumée, ce qui donne la joie, là, c'est tout ce qui se rapporte à Jésus. Tout ce qui se rapporte à Jésus donne la joie. Verset suivant. L'annonce de sa venue, lorsque l'ange a annoncé aux bergers que Jésus viendrait. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Donc, la venue du Seigneur Jésus-Christ procure une grande joie. Verset suivant. Ici, dans Jean, c'est Jésus qui dit que lorsque Abraham a tressailli de joie à la pensée de voir que Jésus viendrait. Donc, Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Donc, pour Abraham, le fait de voir que Jésus était né, c'est une grande joie, une tressaillie d'allégresse. C'est beaucoup, ça, tressaillir d'allégresse. Donc, sa venue. Aussi, sa présence procure la joie, le verset suivant. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur se réjouira. Et nul de vous n'ôtera votre joie. Donc, le fait que Jésus dit, vous allez être triste, je vais être parti, mais je vais revenir. Quand je vais revenir, vous allez être plein de joie. Qu'est-ce qui procure la joie? La présence de Jésus encore, sa venue. Pour ça, j'ai dit, tout ce qui se rapporte à Jésus nous cause beaucoup de joie. Aussi, sa résurrection. Verset suivant, dans Matthieu 8, c'est les femmes qui ont vu Jésus, qui était ressuscité. Elles s'éloignaient promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. C'est drôle, hein? Il y avait de la crainte. Il y avait vu quelque chose de spécial. Et une grande joie. Donc, sa résurrection de Jésus a procuré beaucoup de joie. Et la joie est souvent qualifiée. Hein? On a le mot grand ici. Une autre chose aussi qui, pour nous, nous procure la joie, c'est la certitude de son retour. Sur la terre, c'est pas toujours facile, mais on sait que le meilleur est à venir. Et on se souvient que Moïse, qui a abandonné toutes les richesses, toute la gloire qu'il y avait en Égypte, pour prendre la récompense qui était Jésus-Christ. Regardons le verset suivant dans Hébreux 11. « Il, c'est Moïse, il estima en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors d'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. » Donc, on sait qu'il va revenir. On regarde à Jésus, son retour, la certitude de son retour nous donne une grande joie. Et c'est drôle parce que Moïse n'avait jamais entendu parler du Christ. Hein? Il estimait en effet que l'opprobre du Christ, puis on était dans l'Ancien Testament, il n'avait jamais entendu parler, mais Moïse savait qu'il y avait un sauveur qui s'en venait pour son peuple. Le peuple élu de Dieu, il y avait un sauveur. Donc, il ne savait pas encore son nom. Il savait probablement qu'il s'appelait Joshua, Jésus. Mais il ne connaissait pas encore, mais il savait qu'il devait subir cet opprobre-là. Ça valait plus que tous les trésors d'Égypte. Donc, des fois c'est dur, mais on sait que le meilleur est à venir. Je me souviens quand j'étais aux études, il a fallu que je m'expatrie. J'étais un Gaspésien, il a fallu que je m'en aille aux études dans la ville. Et j'ai trouvé ça dur. Moi, j'étais habitué l'automne d'aller dans le bois, l'hiver faire de la motoneige, j'étais un gars de nature. Entre quatre murs, des fois une petite fenêtre, étudier 7 jours par semaine. C'était peut-être la période la plus dure de ma vie. Mais pourquoi j'endurais ça? Parce que je voyais la récompense, le diplôme au bout. Donc, c'est une comparaison, c'est pas parfait. Mais le meilleur était à venir. Il y avait un prix à payer pour cela. Pourquoi est-ce que c'est difficile de conserver cette joie-là dans le Seigneur? Premièrement, c'est qu'on ne demeure pas toujours près de lui. On va un petit peu plus loin, certains versets, ils nous encouragent à demeurer près de lui. Et la vie, elle est difficile. On peut voir la prochaine diapositive. La vie est difficile. Vous pouvez peut-être avoir un travail qui vous aide à gagner votre vie, mais qui est difficile, des conflits au travail, votre patron qui est difficile, le travail comme tel est difficile. Semaine après semaine, ça revient. Peut-être que vous avez un enfant qui est rebelle. Vous ne savez pas, « Seigneur, pourquoi tu m'as donné cet enfant-là? » Vous en arrachez, puis vous voyez qu'il veut s'en aller dans le monde ou qu'il vraiment n'est pas comme vous auriez aimé. Donc ça, c'est pénible. Déception. Beaucoup de gens ont des souffrances physiques. Quand on voit les annonces, on voit beaucoup de gens ont des souffrances physiques, des blessures émotionnelles aussi qu'on traîne avec nous. Donc, la vie comme telle, elle n'est pas facile. Et quand on vit ces problèmes-là, souvent, bon, on va crier à Dieu. C'est un peu de valeur qu'il faille qu'on souffre pour crier à Dieu. Mais Dieu, mais souvent, il permet ces choses-là dans notre vie pour qu'on crie à lui. Et on n'a pas une soif naturelle, innée, d'aller vers Dieu quand tout va bien. OK? Et lorsqu'on va vers Dieu, c'est « Dieu, change ma situation, règle mon problème. » Donc, on va pas nécessairement là pour lui, mais on va là pour qu'il règle mon problème. OK? On va vers lui quand il n'y a plus rien qui marche. Benoît Lavergne, dans un dernier message qu'il avait donné ici, il disait « Dans l'épreuve, qu'est-ce que Dieu veut? C'est rencontrer ton cœur. Dieu veut te rencontrer, alors que moi, je veux qu'il règle mon problème. Quand mon problème va être réglé, ben, je vais pouvoir vivre ma petite vie tranquille. Okay? » Et Benoît avait ajouté que la foi authentique, c'était d'être en contact étroit avec celui qui est la source de la vie. Donc, être branché à celui qui est la source de la vie, comme le cep doit être, le serment doit être branché au cep. Souvent, nous sommes plus préoccupés par nos demandes que par celui à qui on les adresse. Plus préoccupés par mon problème que celui qui les entend. Plus préoccupés de mes requêtes que de lui. Plus préoccupés du don que du donateur. Mes inquiétudes aussi, à travers les difficultés, les inquiétudes vont voler ma joie. Le verset suivant, dans Philippiens. Dans Philippiens 4:4, vous connaissez le verset, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, hein, c'est pour ça qu'il est dans le Seigneur. Un peu plus loin, il dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que l'inquiétude, ça mine la joie que le Seigneur nous donne. Ne vous inquiétez de rien, en toute chose. C'est pas de temps en temps, hein, en toute chose. Par la prière et la supplication. Là, c'est sérieux, prière, supplication, c'est vraiment devant le Seigneur, et c'est urgent, on supplie. Avec action de grâce, souvent on oublie les actions de grâce. Seigneur, on demande, puis on oublie tout ce qu'il nous a donné dans le passé, tout ce qu'on a actuellement qu'on n'apprécie pas. C'est quand il nous enlève une petite chose que là, ça va pas. Donc, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui supère toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, si mes pensées sont en Jésus-Christ, c'est sûr que je vais avoir la joie, je vais avoir la paix. Okay? Et Paul avait sujet de s'inquiéter, lui était en prison. Il ne savait jamais ce qui allait lui arriver. Il aurait pu être exécuté du jour au lendemain. Donc, il avait sujet de s'inquiéter, mais il savait quoi faire pour garder ses pensées en Jésus-Christ. Et les inquiétudes ne l'affectaient pas parce qu'il était branché à Dieu. Malheureusement, on est porté à aller chercher notre joie, notre plaisir ailleurs, parce qu'on ne le voit pas. On doit vivre par la foi, le Seigneur nous appelle à vivre par la foi, on ne le voit pas le Seigneur, il n'est pas là à côté de nous chaque fois pour nous dire « Hey, je suis là », mais il est là. Okay? Et aussi, il tarde à venir. Jésus tarde à venir, il y a-t-il qui reviendrait, mais je vous donne quelques exemples. Tout à l'heure, on a lu le premier verset, les bergers, les anges ont annoncé, leur a annoncé, le fils de David vient de naître. OK? Combien ça a pris de temps avant qu'il découvre que c'était vrai ou qu'il voit? Quelques heures. Une annonce. Tout de suite après, ils ont vu les choses comme l'ange leur avait dites. Lorsque Jésus a dit, je vais mourir, le troisième jour, je vais ressusciter. Combien ça a pris de temps? Ça a pris 3 jours. Donc, dans ce temps-là, quand Jésus promettait quelque chose, ça arrivait assez vite. Lorsque le Seigneur a été enlevé au ciel, il a dit, je vais vous envoyer une puissance, le Saint-Esprit. Combien ça a pris de temps avec le Saint-Esprit vienne? 10 jours. C'est assez vite. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lui, il disait, le Seigneur s'en vient, là, tu sais, parce que les promesses s'accomplissaient assez vite dans ce temps-là. Ça fait combien de temps que Jésus nous a dit qu'il viendrait nous chercher? Presque 2000 ans. On comprend que on est porté à trouver que c'est long puis qu'il respecte pas sa promesse. Mais combien de temps ça a pris pour que les Juifs voient leur Messie? Parce que quand Adam et Ève ont péché, tout de suite après, Jésus leur a promis que quelqu'un viendrait écraser Satan sous son pied. La postérité de la femme. Ça a pris 4000 ans. 4000 ans. Je ne dis pas que le Seigneur il va revenir dans 4000 ans, non? N'ayez pas peur. D'après moi, il n'est pas loin. Mais c'est pour dire que plus le délai est long, plus on est porté à l'oublier. Et quand Jésus est arrivé après 4000 ans, le peuple d'Israël ne l'attendait plus, malheureusement. Et ils ne l'ont pas reconnu, sauf une minorité. Et Jésus a été rejeté, crucifié, abandonné. Donc, on a vu comment Dieu, lui, va travailler pour nous donner cette vraie joie-là. On a vu un peu tout à l'heure, par les épreuves, mais il veut qu'on demeure en lui. Et demeurer en lui, c'est pas un endroit, c'est une personne. C'est pas un lieu. Quand dans Jean, il dit « demeurer en moi », c'est une personne. Ceux qui ont leur Bible, je l'ai pas sur le point, on va lire dans la Bible, dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. On va lire chapitre 15, versets 1 à 11. Et je vais commenter au fur et à mesure. Chapitre 15, versets 1 à 11. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Pourquoi est-ce qu'il dit « Je suis le vrai » C'est comme s'il y avait un vrai puis un faux. Hein? Le vrai cep, c'est parce que dans l'Ancien Testament, c'est Israël qui était la vigne de Dieu, le cep de Dieu, c'était Israël. Mais Israël l'a rejeté et Israël est devenu une vigne sauvage. Donc, oui, c'est vrai qu'il y avait deux sortes de cep. Il y avait la vraie et la fausse. Israël était la vigne sauvage. Alors que Jésus, il dit, moi, je suis le vrai cep. C'est comme s'il venait prendre la place. C'est moi maintenant. C'est à moi maintenant que vous devez vous en tenir ou vous accrocher. OK? Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Bon. Un sarment, c'est comme une branche. Supposément, il y a le tronc, qui est le cep. Supposément, c'est moi, là, le tronc. Et le sarment, c'est comme une branche. OK? Et les raisins poussent après ça. OK? Donc, Jésus est le tronc, nous sommes les branches attachées après. Puis il dit, les branches qui ne portent pas de fruits, qui sont séchées, qu'est-ce qu'il fait? Il les coupe. Et les branches qui ne portent pas de fruits, il les enlève aussi. Il y a des branches qui ont juste des feuilles. Vous vous souvenez de quand Jésus a vu l'olivier, puis il est venu pour prendre olivier ou figue, je ne me souviens pas. Les figues, il est venu pour prendre des fruits, il n'y en avait pas. Il y avait seulement des feuilles. Il y avait l'apparence. Et Jésus l'a fait sécher. Okay? Donc, Dieu ne veut pas que... Ici, ça représente ceux qui professent, qui se disent chrétiens, mais dans le fond, il n'y a aucun fruit. Ils ne sont pas vraiment en dedans. Ils ne sont pas sauvés. Okay? Donc, ils sont retranchés. Mais il y a ceux qui portent du fruit. Ceux qui portent du fruit, lui, il les émonde. Émonder, ça veut dire couper. Il la coupe pour qu'elle produise plus. Supposément, elle est comme ça, il en coupe, puis là, elle va produire plus. Ça semble paradoxal. Supposément, vous avez un arbre, vous le coupez pour qu'il en pousse plus. Mais c'était le principe, la vigne principalement. Les raisins poussent uniquement sur les nouvelles branches. Supposément, il a poussé une branche comme ça, là, cette année. Là. Si je la laisse comme ça, il n'en poussera plus. Si je la coupe, les nouvelles qui vont sortir après les bourgeons ou au bout vont porter du raisin. Et Dieu nous amende comme ça, il enlève des choses dans nos vies, il nous transforme, nous renouvelle afin qu'on porte plus de fruits. Et s'il ne nous amende pas, on ne portera pas plus de fruits. Si vous voulez la prochaine diapositive, je ne sais pas si on voit, ça c'est une ligne et ça ressemble à des Y là. Qu'est-ce qui est le plus gros? Ça, c'est le cep. C'est ça qui supporte. Et un coup que le fruit a été produit, le vigneron coupe pratiquement tous les sarments. Il laisse un ou deux bourgeons. Des fois, il en laisse un, comme ça. Okay? Donc, quand Dieu émonde, des fois, tu dis, « Ouh, ça fait mal, c'est bien trop, ça prend moins que ça, je suis capable de vivre pareil. » Dieu, quand il émonde, il émonde. La prochaine diapositive, on voit ce que ça produit après. OK? C'est porté à allonger et à produire du fruit. Autre diapositive. On voit ici les petits traits rouges, l'endroit où ils vont couper. Et qu'est-ce qui est à droite? C'est qu'est-ce qui va rester après que la vigne va avoir été émondée. On a l'air fou, hein? On est tout beau, tout plein de feuilles. D'un coup que Dieu nous émonde, des fois, c'est humiliant. C'est humiliant. L'autre diapositive encore, j'en ai quelques-unes sur la vigne. On voit encore ici les deux traits noirs, c'est là où le vigneron va couper. Vous voyez, il laisse quelques bourgeons, et c'est à partir de ces bourgeons-là qu'il va avoir des nouvelles pousses, puis il va avoir du fruit. C'est pour ça qu'à chaque année, là, il enlève pratiquement tout ce qu'il y a. Prochaine diapositive. On voit ici le pointillé, ce sont les nouvelles pousses. C'est une autre forme de coupe ici, on appelle ça taille gobelet. Donc, il a été émondé, il y a aussi quelques bourgeons et des nouvelles pousses qui vont ressortir à chaque année. Le prochain, on va voir le fruit. Donc, c'est ça que ça va produire, le beau fruit mûr. Et c'est ça que Dieu veut qu'on produise. Donc, ça montre que Dieu nous amende pour qu'on porte plus de fruits. On a besoin d'être renouvelé, du renouveau. Comme Dieu ne porte pas de fruits sur des vieilles tiges, il nous renouvelle constamment. Et Dieu nous délivre de ce qui nous empêche de porter du fruit. Deux choses qu'il utilise, les épreuves, et il utilise aussi sa parole. On va regarder au verset 3. On continue dans Jean, chapitre 15, verset 3. « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc les disciples, ils ont été émondés jusqu'à un certain point à cause de tout l'enseignement de Jésus. Leur vie a été transformée. Et Dieu nous transforme, nous, continue à nous transformer par sa parole, par le travail d'esprit en nous et par les épreuves. Okay? Mais ça peut arriver qu'on va lire et ça ne nous transforme pas. On a une épreuve, ça ne nous transforme pas, on s'endurcit. Donc, laissons-nous transformer pour demeurer en lui. Aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu un pommier qui n'est jamais émondé. À la longue, il vient qu'il ne porte plus aucune pomme. Il devient un pommier sauvage. Il faut l'émonder. C'est un peu le même principe. Sauf que le pommier, lui, il va porter des pommes sur la branche de l'année antérieure. C'est un petit peu différent. Verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourriez rien faire. » Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est pas juste un peu de fruits, c'est beaucoup de fruits. Donc, il nous exhorte à demeurer en lui, chercher sa présence, prier, dépendre de lui, l'imiter. OK? Verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Ça veut dire que le sarment, un coup qui est coupé, là, ils font pas grand-chose avec. Ils font pas de meubles, ils font pas de construction. C'est pas un bois qui a de la valeur comme tel quand il est détaché. Il n'a pas de valeur, il est brûlé. Et ça me dit que moi, lorsque je suis détaché du Seigneur, j'ai plus de valeur à ses yeux, j'ai plus de vraie valeur dans une dimension d'éternité. Mais le sarment, il a une capacité très grande, savez-vous c'est quoi? Il est poreux et il est fait pour que la sève puisse circuler facilement dedans pour porter du fruit. Donc c'est la plus grande caractéristique de cet arbre-là, du sarment, c'est d'être poreux, que la sève passe facilement, rapidement, et produise des beaux raisins. Donc, le Seigneur nous a fait comme ça. C'est notre caractéristique. Sans lui, on ne peut rien faire, mais dans lui, sa sève peut circuler en nous, sa vie peut circuler en nous facilement et produire du fruit. J'avais coupé un pommier l'année passée, un pommetier, et j'avais mis ça dans le poêle ce printemps. C'était pas un bois qui brûlait bien. C'est pas comme d'autres essences. Tu vois, sa capacité encore là, les arbres fruitiers habituellement sont là pour porter de la sève et porter du fruit. Okay. Continuons avec le verset 7. « Si vous demeurez en moi, Jésus revient beaucoup avec ça, hein? Si vous demeurez, il insiste, parce qu'il sait qu'on a la tête dure, là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, Dieu veut être glorifié dans nos vies. Il veut être capable de dire aux principautés, aux anges, « Voyez qu'est-ce que je suis capable de faire avec lui quand il est attaché à moi. Ça marche, la vie chrétienne. Je suis capable de le transformer, même s'il vit dans un monde déchu. » OK? Nous continuons. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Je vous ai écrit ces choses. Pourquoi? Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » C'est le titre de mon message, la vraie joie. Quand j'ai lu ces versets-là, l'autre jour, je me disais, pourquoi Dieu veut autant qu'on soit joyeux? Parce qu'il dit, il vient dire, tout ce que je viens de vous dire là, c'est parce que je veux que ma joie soit en vous. Ah! C'est sûr qu'il veut que Dieu soit glorifié, il veut qu'on s'aime, il veut qu'on l'aime. Mais une des principales raisons, c'est qu'on soit heureux en lui. Et pas une joie n'importe quoi, votre joie soit parfaite. Certaines traductions mettent une joie complète. Donc, Dieu a ce désir. C'est dur à comprendre, hein, parce que des fois, on dit, « Ah, Dieu, j'ai l'impression que tu m'écrases, j'ai l'impression que la vie est dure. » Non, Dieu veut notre joie. Mais bien souvent, c'est à long terme aussi. C'est pas toujours tout de suite. Okay? Et on le réalise pas. Donc, la joie humaine ne sera jamais parfaite, mais Jésus nous rappelle la sienne, elle est parfaite. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans sa prison, pouvait être joyeux. J'ai jamais compris, ou c'est dur à comprendre, tu sais, il avait été fouetté, il était en prison, puis il chantait. Puis c'est là que la terre a tremblé, puis les portes ont ouvert. Comment il peut chanter des cantiques après avoir été flagellé puis jeter en prison? Donc, Dieu est une personne joyeuse. Un autre verset qui montre ça, une autre diapositive, s'il vous plaît. C'est à la fin de la parabole des talents. Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Il ne dit pas « entre dans ma maison », entre dans ta joie de ton maître. Sur terre, on ne peut pas dire ça, entre dans ma joie. C'est comme si Dieu, lorsqu'il va nous appeler, va dire, entre dans ma présence, dans mon amour, entre dans la joie. Dieu, c'est comme quand on est dans sa présence, on a beaucoup de joie. Rappelez-vous quand vous avez été sauvés, quelle joie il y avait. Ça débordait. Vous savez, vous en avez trop, vous savez pas quoi faire avec. Le Saint-Esprit produit beaucoup de joie dans nos vies. Mais sur terre, est-ce qu'on peut être joyeux? On dit que Dieu, il est joyeux. Quand il voit tout le mal qu'il y a sur la terre, comment il fait pour être joyeux? Je crois que Dieu voit la fin de l'histoire. Il voit tout. Tout a un dessein pour lui. Il sait qu'il mène toutes bonnes choses à une fin. Comme pour nous, on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu sait que tout ce qu'il fait, Dieu est au contrôle, Dieu est souverain de tout ce qui se passe sur la terre. Et quand on est au contrôle, c'est plus facile d'être heureux. Mais nous, on n'a pas toujours le contrôle, ça fait qu'on n'est pas toujours heureux. OK? Donc, Dieu utilise les difficultés ici-bas pour nous rapprocher de lui, pour nous faire trouver la vraie joie en lui. Un autre verset dans Jacques, c'est un verset qu'on a... Pouvez-vous changer la diapositive, s'il vous plaît? Jacques. Bonnement, on a parlé, Joël, parce qu'on a eu dernièrement une étude sur le livre de Jacques. Il y a un verset que j'ai toujours eu la difficulté avec, celui-là. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Ça ressemble masochiste, ça. Tu sais, vous avez des épreuves, c'est un sujet de joie complète. « Hey, hier, j'ai eu un accident. Ouh! Viens de perdre ma job! Yeah! » C'est pas comme ça, hein. Quand ça arrive... Parce que les versets un petit peu plus loin, ça marque, de prime abord, ça semble un sujet de tristesse et non de joie. C'est comme ça que ça arrive, prime abord. Mais Dieu, à travers ça, il va produire la joie. Puis même la joie complète, le mot complète est là, c'est pas pour rien. Tu sais, oui, je me réjouis. Oui, il faut bien, tu sais, avec ma tête, je me réjouis. Je sais bien que c'est pour mon bien, là, ça a l'air que c'est mieux comme ça, là, tu sais. Non, joie complète, avec le cœur inclus, me réjouir. Dieu est capable de le produire. C'est pas humain, ça. C'est pas humain. C'est pour ça que Dieu l'a écrit. Donc, lui est capable de produire cette joie-là complète dans l'épreuve. Supposément que je suis un sarment, une vigne, puis là, je vois le vigneron qui arrive. « Hey, coupe pas. » Ting, il coupe ici. Ça, un peu. « Hey, pourtant, j'ai porté du fruit cette année. Regarde les belles feuilles qui restaient. Pourquoi il coupe? » Je ne comprends pas. Le sarment, il ne comprend pas. Là, printemps d'après, là, il comprend. Quand il veut pousser tous les autres sarments qui poussent après, là, il va comprendre. Mais quand ça arrive, quand on est émondé, on ne comprend pas toujours. C'est pour ça qu'on doit faire confiance au vigneron, au grand jardinier. Le vigneron qui travaille dans sa vigne, lui connaît ça. Il a de l'expérience. Il sait ce qu'il fait. Et Dieu, il est le grand vigneron de nos âmes. Je pense que c'est un spécialiste pour émonder. On lui fait confiance. Une petite histoire ici. Excusez, monsieur le bout du nez. C'est l'entretien, comme on dit, hein? Je ne dirais pas qu'il est long, là, vous le savez. Une petite histoire ici, c'est un homme qui était parti depuis une semaine et il arrive chez eux, c'est un chrétien. Puis il avait apporté du chocolat pour ses deux petits-enfants. Hey, les petits-enfants étaient contents. « Merci, papa, pour le chocolat, t'es le meilleur des pères, il n'y en a pas d'autres comme toi. Oui, mon père est gentil. » C'est sûr que le père était content, que les enfants soient contents. Puis là, il s'est dit, « Mes enfants ne me remercient pas pour vraiment l'essentiel, parce que l'essentiel, qu'est-ce qui est dur? C'est de travailler pour payer le loto, l'hypothèque, la nourriture. Ils ne me remercient pas parce que je les discipline pour les rendre autonomes, les rendre meilleurs. Ils ne me remercient pas parce que des fois, il faut que je dise non pour leur bien. » Donc, tu vois, les enfants, ils trouvaient gentil le père, ils le remerciaient, mais pour des chocolats, des bonbons. Ils ne le remerciaient pas pour les vraies choses, parce qu'ils ne les réalisent pas. Un enfant ne réalise pas les vraies choses, tout ce qu'on fait pour eux autres. Malheureusement, on est comme ça avec Dieu. On remercie pour des bonbons, on prie pour des bonbons, et on oublie de le remercier pour l'essentiel, les vraies choses. Donc, merci pour me discipliner, me former, me faire attendre. On ne le remercie pas beaucoup de nous faire attendre. Hein? On est pressé. Moi, lorsque j'étais célibataire, j'étais sauvé, j'avais 22 ans. Et je pensais pas au mariage avant, là. Mais un coup de sauvé, ma vie était plus stable. Je me disais, bon, il me semble que je serais prêt, là, tu sais, je suis correct. 23, 24, 25, c'était à 26. Mais tout ce temps-là, j'étais prêt dans ma tête. Mais le Seigneur savait qu'il fallait que j'attende. Puis j'ai jamais remercié le Seigneur de me faire attendre. À ce temps-là. Jamais, jamais. Fait que ceux qui sont encore célibataires, ne le faites pas comme moi. Mais c'est dur, hein? Tu veux pas être hypocrite, merci Seigneur de me faire attendre. Dans le fond, c'est pas vrai. Tu sais? Il faut avoir le... Seigneur, tu vois mon cœur, là, aide-moi à te remercier. Mais ça valait la peine parce que 5 ans plus tard, quand je me suis marié, ben j'ai vu que j'avais grandi, j'avais appris à dépendre du Seigneur, que le Seigneur réponde à mes besoins. Et si je m'étais marié tout de suite, peut-être il y a des besoins que le Seigneur comble, j'aurais pensé que c'était mon épouse qui pouvait le faire. Mais j'ai appris qu'est-ce que c'était de vivre toute seule avec le Seigneur, autonome. Après ça, tu vas chercher, le Seigneur te donne une femme qui est elle aussi autonome. Et ça m'a permis aussi de découvrir la perle rare. Si je m'étais marié tout de suite, je ne l'aurais pas trouvée. Il fallait que le Seigneur la sauve et la transforme. Donc, par la foi, remercions le Seigneur de nous faire attendre. Et dans l'épreuve, Dieu nous force à nous tourner vers lui. Malheureusement, ça prend ça bien souvent. Et c'est ça qui nous fait qu'on va demeurer en lui. Ici, j'ai une citation de M. André Adoul dans son livre « Sa présence ». Il dit ceci. « Ainsi Dieu juge parfois utile de ne pas satisfaire momentanément à un besoin vital pour m'inciter à rechercher sa face et à pratiquer le chemin du sanctuaire que j'avais tendance à délaisser. » Et plus le besoin est pressant, je lui donne des exemples, pas d'argent face à une obligation, maladie douloureuse, persistante, situation inextricable, un enfant qui suit une mauvaise voie. Donc, plus j'ai des problèmes et plus rapprochés sont mes entretiens avec le Seigneur. Et ça, ça me fait penser au fils prodigue. Il a dépensé l'argent que le Seigneur lui avait, son père lui avait donné, la moitié de son héritage. Quand il n'y avait plus rien à manger, puis une scène, il est entré en lui-même, il a dit, « Bon, les serviteurs chez mon père, ils ont tout ce qu'ils veulent. Je retourne chez mon père. » Donc, il a voulu retourner chez son père quand il était dans l'épreuve. Souvent, on est comme ça. Et dans l'épreuve, lorsqu'on retourne à lui, on trouve la paix, la joie. Et dire, « Seigneur, le fardeau, je ne pourrais pas le supporter moi-même. » Parce que bien souvent, on a des épreuves qu'on ne peut pas supporter nous-mêmes. Trop souvent. On dit des fois à quelqu'un, là, comment il fait, lui, pour vivre avec tel handicap ou tel enfant toujours malade? Le Seigneur donne une grâce spéciale. Sans le Seigneur, c'est trop difficile. Donc, des fois, on a des fardeaux qui sont trop pesants pour nous. On a le goût de tout laisser tomber. Ça ne vous est pas arrivé, vous autres, moi, ça m'arrive. OK? À ce moment-là, on a un choix à faire. Quand c'est trop dur, on peut aller chercher un soulagement immédiat, un apaisement immédiat dans le péché. Ça peut être la boisson, ça peut être nourriture excessive, la drogue. Ça peut être la pornographie, malheureusement, avec l'avenue d'Internet, c'est devenu tellement facile. Nous sommes à un clic près de n'importe quel site pornographique. Donc, ça soulage momentanément. Parce que vu que la vie est dure, puis qu'on a besoin d'être heureux, ces choses-là vont nous apporter un petit répit. Mais ça crée une dépendance. Pas besoin de faire de cours ici. Vous savez c'est quoi? Qui s'en suit? On devient dépendant à ça pour notre bonheur. Et ça rend pire, ça ajoute à ma misère que j'ai déjà. L'autre choix que j'ai, c'est d'écouter Jésus qui est là, qui dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Du repos pour vos âmes, repos physique, votre repos spirituel, intellectuel. Donc, je suis plus capable. « Seigneur, je m'appuie sur toi, donne-moi le repos. » Et dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, pour vous en tourner, Pierre dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car Dieu prend soin de vous. » Car Dieu lui-même prend soin de vous. Décharger, c'est de charger un voyage de bois. Vous le mettez tout, hein? Un camion qui vide, hein? Décharger, il n'y en a plus. Il ne reste plus. Donc, décharger sur lui, c'est au complet. C'est pas seulement une partie, puis j'en garde une partie pour moi, au cas où ça ne marcherait pas. Hein? Donc, on lui donne tout, on abandonne tout, et lui s'occupe du reste. Imaginez Jésus sur la croix. Il était sur la croix. Ah, oh, ils n'ont rien compris, je suis venu pour rien. Gardez, j'ai leur faim. Puis ils rient de moi. Il aurait pu dire ça. Hein? Ça n'a pas marché. Puis s'il y a un endroit où Jésus, ça paraissait qu'il avait failli, qu'il était faible, c'était sur la croix. Mais s'il y a un endroit où il y a eu la victoire, c'est par sa mort sur la croix. Il ne pouvait pas avoir de victoire à moins d'avoir passé par là. Mais combien il était méprisable. Il disait, « Je suis un ver et non un homme. Mon cœur ça coule comme de la cire. » Il était vraiment misérable. Mais il a pris soin du larron côté de lui, il a pris soin de sa mère, il a dit « Jean, coupe-toi de ma mère ». Il a dit « Pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Il avait toute sa tête, tout son amour. Il aurait pu descendre de là et toutes les demander des légions d'anges de venir le libérer, il ne l'a pas fait. Donc, dans l'épreuve, tout n'est pas fini. C'est un moment qu'on a à traverser pour avoir plus. Regardons notre diapositive où on voit ici Jésus sur la croix dans Hébreux 12. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Si je n'ai pas étudié la joie ici, qu'est-ce qu'il voulait dire, mais il aurait pu, Jésus, descendre la croix. Les gens, ils disaient, c'était le Fils de Dieu, prouve-le, descend. Ça serait fait plaisir, hein? On a le goût, des fois, de se faire plaisir. Oui, il aurait réglé le problème. Lui-là, là, ils auraient tout anéanti. Puis... Non. C'est pas ça qu'il a fait. Il a resté, il a supporté la croix, méprisé la honte. À moitié nu sur la croix, les gens riaient de lui. Ah, la suite! Il s'est assis à la droite de Dieu. Il savait que c'est ça qui s'en venait. Il savait qu'il pourrait nous amener avec lui puis nous sauver. C'est ça qui l'a maintenu attaché sur la croix, son amour pour nous. Contraste entre assis à la droite de Dieu et la souffrance sur la croix. Au début, j'ai montré le pilote. J'ai donné une histoire d'un pilote, excusez. Puis le pilote souriait dans la tempête. Donc, quand les gens voyaient le pilote, ils disaient « Ah, pas de problème, tout va bien. » Et je prends l'avion quelques fois. Je me souviens, on était allé au mariage de notre fille au Manitoba. Puis en avion. Puis quand on vient pour atterrir, il y avait des turbulences. Okay? Puis là, ça fait comme ça. Puis là, tu sens que ça descend un peu. Puis à un moment donné, ça arrête. Puis là, ça remonte. Puis j'étais un petit peu insécure. Et savez-vous qu'est-ce qui m'a rassuré? Je regardais le visage des agents de bord. Je regardais les hôtesses de l'air. S'il y avait le visage crispé, là, ça va pas bien. Parce que les autres, ils connaissent ça, ils passent leur vie là-dedans. C'est peut-être c'est un millier, deux milliers de vols qu'ils font. Mais l'hôtesse de l'air continue à sourire, parler. On n'a pas l'air... ça n'a pas l'air compliqué, ça. Bon, ça me rassurait. Okay? Et c'est la même chose pour nous, dans l'épreuve. Si on peut regarder le visage du Seigneur, si on a accès à lui, on voit le Seigneur qui nous sourit. Ça va bien. Non, ça va pas si bien. Oui, c'est difficile, mais je suis avec toi. Je suis avec toi. Prochaine diapositive. Nous, on a le pilote. Pas juste l'hôtesse de l'air. On a le pilote qui sourit. OK? Qui nous dit, ça va bien. On a accès au pilote de l'avion, de notre vie. Il nous dit, c'est dur, mais je suis avec toi. Je suis avec toi. Tiens bon. Donc, sa présence nous procure une grande sécurité, une grande paix. Sa présence nous remplit d'amour pour lui, pour les autres, nous transforme. Sa présence nous donne la vraie joie. Et pas le plaisir comme ont donné les plaisirs passagers du monde. On peut changer la diapositive. Excusez, mesdames. Je sais que vous le trouvez beau, là, mais vous continuez. Dans le psaume 4, verset 18, où on parle des plaisirs du moment, au moment des récoltes, parce que dans ce temps-là, lorsqu'il y avait des récoltes, ben, c'était une fête. Okay. Au moment des récoltes, les gens sont heureux. Il y a un certain bonheur ici. Leur grenier déborde, c'est-à-dire l'abondance. Le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets à mon cœur plus de joie encore. Le vin nouveau coule en abondance, ça veut dire que là, ils fêtent plus que... Ils prenaient un coup. C'était le gros party, là, puis là, ça coulait. OK? Mais toi, Dieu, tu mets dans mon cœur plus de joie encore. Et avant d'être chrétien, moi, j'ai connu ça, le vin coulait en abondance. C'était pas toujours du vin, là, mais ça coulait. Puis quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai mis ça sur la balance aussi. Parce que j'avais beaucoup de plaisir avec mes amis, puis... tout ça, là. Je m'ennuyais de tout ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur me donne plus de joie. C'est pas euphorique, c'est pas le party, c'est pas, on appelait ça une brosse dans ce temps-là. C'est pas ça. Puis c'est le lendemain, ça va bien, ça va encore mieux. Mais il me donne plus de joie encore. C'est une joie qui est profonde, qui tient, qui nous lâche pas, qu'on peut avoir n'importe quand. Puis ça coûte rien, sauf bien souvent du temps qu'on doit passer avec le Seigneur. Puis dans sa parole, et se rapprocher de lui. Donc, plus de joie encore. La prière devrait être un plaisir, mais trop souvent, c'est une obligation. Hein? Et ça ne nous tente pas, parce qu'on a plein de choses à faire. J'ai pas toujours le goût de prier. Puis prier parce qu'il le faut, c'est pas tellement stimulant. Puis on est dans une société où on fait qu'est-ce qu'on aime. Si t'aimes pas ça, ben tu rates ta vie là. Tu sais, profites-en, la vie est courte. Ok? Je vous donne une autre citation de M. Adoul dans le livre Sa présence. Il disait: quand la prière n'est qu'un devoir, le Dieu que j'invoque n'est pas tout à fait le vrai Dieu. Donc si c'est une obligation là, d'aller prier, je connais pas le vrai Dieu. Si le prier est un devoir, Dieu m'apparaît sous des traits d'un maître dur, exigeant, impossible à satisfaire. Or, ce n'est pas son vrai visage. Il ajoute un peu plus loin. Ah, si nous connaissions mieux le divin époux, si sa présence était pour nous un ravissement de joie, La prière cesserait d'être un devoir pénible. Sa personne pleine de charme nous attirerait irrésistiblement. Dès le matin, déjà, nous le chercherions pour nous rassasier de son image, et tout au long du jour, nos regards se tourneraient vers le bien-aimé. Donc, on aurait une communication beaucoup plus constante. Donc, cette joie-là, on ne la produit pas nous-mêmes. Il faut puiser aux sources de la vie. Il faut passer du temps en sa présence. J'ai dit que Dieu nous avait créés pour être heureux, et lorsqu'on est en lui, il nous donne ce bonheur-là, cette vie-là, et Dieu aussi veut qu'on communique avec lui. C'est ça qu'il veut pour nous et pour lui. Prochaine diapositive, un ticket. La vie chrétienne, c'est pas juste un ticket pour le ciel. Ça peut arriver qu'on a déjà vendu ça. Si tu acceptes le Seigneur comme ton sauveur, tu fais la prière de repentance, clic, t'es correct, au ciel. Moi, c'est ça que je cherchais avant. Parce que j'avais peur de mourir, puis je cherchais comment faire pour aller au ciel, puis après ça, vivre ma vie comme je voulais. J'ai trouvé faire comment pour aller au ciel, mais après ça, je n'étais plus capable de vivre ma vie comme je voulais. OK? Donc, la vie, c'est pas seulement un ticket pour aller au ciel. Je vais vous donner un exemple. Supposément, vous et votre épouse, ou un couple va acheter des billets pour aller dans une croisière. OK? Wow! Dans 6 mois. Là, vous commencez à y penser. La femme, elle lit des revues, elle fouille sur Internet, elle va voir le pays où ils vont aller, toutes les destinations, elle lit sur la compagnie. Elle s'informe beaucoup, puis elle en jouit déjà, elle est quasiment déjà rendue. Et, mettons, moi, là, oh non, je te mets de travail. Quand on sera rendu là, on fera nos valises, puis on ira. OK? Et c'est un peu comme ça, des gens qui sont sauvés. J'ai mon ticket. On verra, quand on sera rendu là, on verra ce qui va se passer. Alors que je peux commencer à vivre, je dois commencer à vivre la vie céleste sur terre. Anticiper ce qui s'en vient. Vivre d'espérance, espérance réelle de ce qui s'en vient. Puis quand Jésus va arriver, comme c'est marqué dans 1 Jean, je n'aurai pas honte lors de son retour parce que je vais déjà être près de lui. Je ne serai pas éloigné de lui. On a besoin de temps en sa présence. Et c'est la chose qu'on fait le moins. Et lorsqu'on vient dans sa présence, c'est pas toujours facile. On dirait que c'est aride. Puis, tu sais, Jésus dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. On ferme la porte, puis là, dans notre tête, là, c'est pas fermé encore. C'est les pensées, n'importe ce que j'ai à faire, ce que j'ai fait, ça roule. C'est pour ça que ça prend du temps. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, je restais sur le bord d'une rivière, et au printemps, la rivière était sale, parce que ça ramassait tout, elle était plus haute, elle ramassait tous les résidus, la terre. Si on prenait un seau d'eau, on aimait le seau d'eau sale. Mais si on laisse reposer le seau d'eau quelque temps, qu'est-ce qui arrive? Le sable descend dans le fond, et sur le dessus, c'est clair. Et je pense que c'est un peu la même chose lorsqu'on va dans la présence du Seigneur. Si on prend 5 minutes, on va être dans l'eau sale encore. Parce que nos pensées, mais si on prend du temps avec lui, pour lui en donner, graduellement, les soucis vont tomber. Pour lui demander, Seigneur, aide-moi à penser plus à toi, révèle-toi à moi. Les soucis vont s'estomper et Dieu va prendre plus la place. Ça va devenir plus clair. Plus clair, peut-être pas clair comme pour le voir, mais ça va être, sa communication va être beaucoup plus claire avec du temps. Donc, dans l'eau agitée, qui est sale, c'est plus dur de... C'est pas que vos pensées sont méchantes, on peut avoir des pensées qui sont bonnes, un projet qu'on a, une affaire qu'on a à cœur, mais c'est pas ça que Dieu veut pour tout de suite. Donc, lorsqu'on va dans sa présence, un petit peu, j'ai sauté une page, ça va venir, il faut se donner du temps. Je vais vous donner un autre exemple. Supposément, moi, ça me tente moins d'aller prier. J'ai moins de temps à donner. Et Seigneur, j'espace mes visites. Ça donne un exemple de deux personnes qui sont fiancées. Et la fiancée, ils sont supposés se marier, bien sûr. La fiancée, quand ils sont ensemble, il est tard, hein? Je vais me coucher. J'ai telle affaire à faire. OK. Demain, on se voit-tu? Non. Après-demain, là, on s'est assez vu, là, tu sais. Quand ils sont ensemble, elle a moins d'intérêt, puis elle espace les rencontres. Donc, le fiancé, lui, serait maintenant, il va poser une question. Ça va être quoi? M'aimes-tu? Hein? La question que Jésus pose à Pierre, m'aimes-tu? Plus ça va, moins on se voit. On est supposé de se marier. On est fiancé, comme nous, on est fiancé à Jésus-Christ. De moins en moins. Donc, Jésus a le droit de nous poser la question. M'aimes-tu? Donc, Dieu veut se révéler à nous davantage. Ça va bien, je retrouve mes notes. Et lorsqu'on va dans sa présence, comme j'ai dit bien souvent, ça peut être sec. Sec. Et puis, c'est pas le fun que ça donne. Tu vas là, puis il se passe rien, Dieu ne communique pas avec moi, j'ai pas l'impression. C'est sûr, j'ai ma liste de requêtes, je vais défiler ça, tu sais. Mais je pense que lorsqu'on va dans la présence de Dieu, il faut lui dire, ben Seigneur, j'arrive pas avec ma liste de requêtes, je veux que ce soit toi qui décides des sujets de conversation. Toi qui décides de l'ordre du jour. De quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui, Seigneur? Oh, pas là. Tu sais, des fois, on veut pas trop laisser le Seigneur nous parler, là. Seigneur, je veux que ce soit toi qui parles. Je sais pas ce que tu vas me dire. Mais pour en venir là, bien souvent, il faut commencer à compter ses bienfaits. Parce que Dieu, des fois, on arrive avec une liste de requêtes, puis on oublie tout ce qu'il nous a donné, puis on est comme des enfants ingrats. Moi, je me vois souvent comme ça. Quand Dieu me montre tout ce qu'il me donne, donc, comptons les bienfaits de Dieu. Supposément, c'est bon, j'ai de la misère à me contrôler. Seigneur, montre-moi tous les bienfaits. Tes comptes. Puis, la louange va venir dans notre cœur, les actions de grâce. Ah, Seigneur, t'en fais des choses pour moi. Hey, je suis arrivé avec ma liste de prières, moi, là, puis j'avais oublié tout ce que tu m'avais donné. OK? Donc, on ne remercie pas assez pour tout ce qu'il nous donne. Et là, le Seigneur va nous dire, « Oups, ben, tu n'étais pas tellement reconnaissant. » On va dire, « Seigneur, pardonne-moi. Je comprends, je n'étais pas tellement reconnaissant. » Il va nous donner un cœur reconnaissant. Et à travers ça, il va nous montrer qu'il nous aime, bien sûr. On ne peut pas aller dans la présence du Seigneur sans qu'il nous révèle son amour. Puis aussi, il va me révéler mes manquements. Ah oui? Ah bon? Ah. On dirait que quand il met la lumière, supposément, moi, je vais dans mon atelier chercher quelque chose. Des fois, je n'allume pas la lumière parce qu'il fait assez clair, puis je sais où est l'outil. Mais des fois, je ne le trouve pas. Tu allumes la lumière, pff, tout est là. Okay? Et souvent, il y a des choses dans nos vies qu'on ne voit pas, mais quand le Seigneur met sa lumière, on voit tout. La nuit, vous allumez une chandelle, puis là, pff, complète différence qui se passe. Hein? Donc, quand la lumière entre, plein de choses qui étaient là, mais qu'on ne voyait pas. Okay? Et Dieu, dans sa lumière, il ne fait pas juste nous montrer nos manquements, il nous montre les possibilités. Toutes les possibilités qu'on pourrait prendre, qu'on ne prend pas. Dieu est visionnaire. Il va nous montrer. Ah! Je n'ai pas vu ça. C'est vrai, Seigneur, ça a du bon sens. Merci de me montrer ça. Donc, Dieu nous montre des choses. Donc, puis à travers tout ça, je vais réaliser que, Seigneur, je perds mon temps quand je ne suis pas avec toi. Seigneur, je néglige le plus essentiel parce que ma relation intime avec toi, c'est ça qui est le plus important. Tout découle de là. Sans ça, je marche jusqu'à un certain point, croche dans la vie, pas comme tu veux. Et Dieu, à ce moment-là, il va garder davantage nos cœurs en Jésus-Christ, nos pensées en lui. Il va nous donner son amour, il va nous remplir de sa vraie joie. Pas une joie que donne le monde. Et quand l'épreuve arrive, on est plus prêt à y faire face. Si vous voulez, on va prier. Et pendant qu'on va prier, je demanderai au groupe de louanges de s'avancer. Ô notre Père, combien nous sommes vite à parler et lent à t'écouter. Seigneur, on te prie de nous donner des cœurs de gens qui vont être capables d'écouter. On te prie de sonder nos cœurs, de nous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Et Seigneur, on te prie de te révéler à nous dans nos temps de prière. On te prie de nous aider à persévérer, parce qu'on n'est pas persévérant de nature. On aime les choses vite, les fast-food, tout ce qui passe rapidement. Mais avec toi, Seigneur, tu nous demandes de persévérer. Seigneur, nous voulons vivre de ta vie. Seigneur, merci de nous émonder, même si ça ne fait pas du bien toujours, merci de le faire. Seigneur, on veut chercher ce qui t'est agréable. Seigneur, on veut vivre de ta vie. On te demande, Seigneur, de continuer à prendre soin de nous comme tu le fais. Nous prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.